Bienvenidos a este informativo de Radio France. Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec vous Alison Hurd de la rédaction en anglais.
Hello.
Pour de nouveaux marchés pour le vin français et c'est en Afrique. Pour la rédaction en roumain, Vasile Damian.
Buonasera.
Le début de la campagne électorale en Roumanie pour les présidentielles des 4 et 18 mai. Et Ibrahima Timbimba de la rédaction en Foufoulde.
Missal Minima.
Et il sera question avec vous d'images violentes relayées largement sur les réseaux sociaux en Guinée. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, c'est la guerre commerciale, bien sûr déclarée par Donald Trump au monde entier, avant qu'il ne se ravise sur l'ampleur des hausses des droits de douane. Alison, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne depuis 2020. Alors comment le pays réagit à ce revirement du président américain ?
Alors Philippe, déjà Trump avait dit qu'il gelait les tarifs pour donner un peu de temps de négocier des accords avec des pays qui se sont montrés ouverts à réviser les conditions commerciales. Et en fait, le Royaume-Uni avait déjà négocié des conditions commerciales un peu différentes de leurs voisins sur le continent. Ils sont toujours un peu différents. Le pays bénéficiait déjà en fait du tarif inférieur de 10% et donc d'une certaine manière, il aurait pu en tirer un avantage par rapport aux 27 membres. De l'Union. Il aurait pu encourager peut-être certaines multinationales à produire davantage en Grande-Bretagne plutôt qu'en Europe pour exporter vers les US. Avec ce revirement, le Royaume-Uni a perdu cet avantage. Ceci dit, Londres a toujours l'intention de négocier plus tard un accord de libre-échange avec Washington pour éliminer complètement le tarif de 10%.
Non, justement, ce tarif de 10%, comment il impacte le Royaume-Uni ?
La plupart des exportations du Royaume-Uni vers les US sont des services et donc pas touchés par les tarifs américains. Concernant les biens, le tarif de 25% sur les métaux, les produits dérivés des métaux, va se sentir un petit peu. Par exemple, l'année dernière, on a exporté pour plus de 700 millions de dollars d'acier et d'aluminium brut. Par contre, pour les produits métalliques, c'est plus important. Il y en avait pour près de 3 milliards de dollars en 2024.
Et les tarifs ne vont pas s'appliquer de la même manière en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, mais avec un statut particulier.
Oui, c'est un peu la casse-tête en fait pour l'Irlande du Nord, parce que malgré le Brexit, le pays a conservé des liens avec Bruxelles dans le cadre d'un accord. Et en gros, ça veut dire que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique de libre-échange. Donc c'est un avantage, mais du coup serait tenu à appliquer tout nouveau tarif européen sur les importations américaines. Ça pourrait impacter beaucoup les entreprises en Irlande du Nord.
Timbimba, si les pays touchés se trouvent principalement en Europe donc en Asie, l'Afrique n'est pas totalement épargnée. Alors quels sont les pays qui pourraient précisément être affectés par cette décision de Donald Trump ?
Au fait, cette surtaxe américaine touchera principalement les pays exportateurs du pétrole brut, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Gabon et l'Angola, sans oublier aussi les exportateurs du textile, notamment le Lesotho, au Madagascar ou encore le Kenya. Et tous ces pays bénéficiaient du programme AGOA qui exemptait des dizaines d'États africains des droits de douane en exportant donc leurs produits vers les États-Unis. Cette décision de Donald Trump est donc un coup dur pour leur économie à cause des risques liés à la suppression d'emplois, mais aussi à la perte d'énormes recettes sur le marché américain. La Côte d'Ivoire, dont le cacao, par exemple, le caoutchouc, l'EVA et l'anacarde sont exportés vers les États-Unis, réfléchit déjà à de nouveaux débouchés pour compenser les éventuelles pertes.
Alors, cette préoccupation résonne également au sein de la diaspora africaine qui est installée aux États-Unis. Elle commercialise des produits alimentaires importés du continent, hein, Timé.
Effectivement, c'est le cas d'Ismaël Diallo, vendeur de céréales, des huiles végétales et du textile importé d'Afrique depuis 2015, avec qui nous avons échangé au cours de cette semaine. Il s'en sort bien avec ce business qu'il cumule avec de la restauration africaine à Columbus, un business qui marche grâce notamment à l'AGOA qui l'exempte des droits de douane, je le disais tout à l'heure. Mais depuis l'annonce de la décision de Donald Trump de surtaxer pratiquement tous les pays, y compris donc africains, il est inquiet pour l'avenir de son business. Moins cher actuellement, les prix de ses produits importés d'Afrique risquent donc de doubler dans les semaines ou mois à venir si la donne ne change pas.
Et tout cela a été largement commenté également par la presse et les responsables politiques en Roumanie, Vassilé. Quel est tout d'abord l'impact potentiel de ces droits de douane plus élevés sur l'économie roumaine ?
Eh bien Philippe, directement l'impact potentiel est limité. Il faut savoir qu'en 2024, la Roumanie a exporté vers les États-Unis des produits pour 2,2 milliards d'euros et on a importé pour 1,3 milliard. Seulement 2,5% des exportations roumaines arrivent de l'autre côté de l'Atlantique et seulement 1% des importations roumaines sont d'origine nord-américaine. Ce n'est donc pas grand-chose. À première vue, la Roumanie ne serait donc pas touchée par une hausse des tarifs douaniers, sauf cas particulier. Il faut savoir que la Roumanie est quand même le 11e plus grand fournisseur d'acier et de fer des États-Unis.
Et puis il y a des effets indirects qui pourraient affecter l'économie roumaine.
Si par exemple les exportations de voitures allemandes aux USA diminueront, la Roumanie, qui exporte en Allemagne la plupart de ses produits de l'industrie automobile, essentiellement des pièces détachées, souffrira bien sûr aussi. L'Allemagne étant le premier partenaire commercial de la Roumanie, mais aussi le pays qui exporte un tiers du total des exportations de l'Union européenne vers les États-Unis, c'est sûr que les entreprises roumaines intégrées dans cet enchaînement de production seront impactées.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 degrés Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et dans la foulée de cette guerre commerciale, il y a cette inquiétude des viticulteurs français, d'autant que le vin français est en grande difficulté, baisse de la consommation dans l'Hexagone, baisse des exportations, puis maintenant il y a ces droits de douane. Alors il faut peut-être chercher de nouveaux marchés, Alison Hearn de la rédaction en anglais. Vous êtes intéressé au marché potentiel du continent africain pour les vins français.
Oui, parce qu'il faut chercher loin maintenant, puisque la consommation de vin en France a baissé de près de 70% depuis les années 60. On n'est plus vraiment à l'époque où on donnait un petit coup de rouge aux écoliers à midi. Et les exports de vin ont chuté l'an dernier de 3%. Et la situation pouvait, comme tu disais, bien s'empirer si Donald Trump augmente, comme prévu, les droits de douane sur les vins et spiritueux. Ça pourrait entraîner une chute de 20% des ventes selon le secteur. Alors, il faut regarder ailleurs. Et le Nigeria, avec ses 220 millions d'habitants, peut être un marché prometteur. C'est en tout cas ce que pense Chinedu Ritarosa. Elle est consultante en vin à Bordeaux. Depuis une dizaine d'années maintenant. Elle a dit à mon collègue Yann Dandamad que le goût du vin avance dans son pays natal.
Beer will always be number one because we are in a hot climate. People want something refreshing.
Que dit Rosa ?
Oui, donc elle reconnaît que si la bière est toujours le boisson alcoolisée numéro un au Nigeria, il fait chaud, les gens apprécient des boissons rafraîchissantes, le vin prend du terrain. Le vin français représente environ maintenant 20% du vin vendu au Nigeria et chaque année, il y a une augmentation, elle dit. Alors, elle parle du vin au sens large, hein, y compris champagne. Les bons vins de Bordeaux qui vont à l'export, c'est plutôt du haut de gamme, hein, des vins qui peuvent se marier peut-être avec certains plats africains, mais pas forcément avec tous. Du coup, elle aide les viticulteurs et des vendeurs d'aller au Nigeria rencontrer leurs nouveaux clients.
You need to go, you need to meet the people, you need to learn the taste of the people, you need to meet the people.
Bon, il dit qu'il faut rencontrer les gens déjà.
Bah voilà, bravo. Oui, rencontrer des gens, apprendre le goût des gens, découvrir ce qu'ils aiment, parce que c'est son goût qui vous recherchez, dit-il, pas le vôtre. Il ne suffit pas de dire buvez mon vin, c'est le meilleur. Il y a de la concurrence, elle explique, du Chili, d'Afrique du Sud, bien sûr, des États-Unis, d'Italie, du Portugal. Et ce qui fait la différence pour les Bordelais, ça serait ce travail supplémentaire de communiquer avec ses clients.
Les autres pays en Afrique qui peuvent s'intéresser au vin français?
En fait, le premier importateur du vin Bordeaux, en tout cas, c'est la Côte d'Ivoire, suivi du Cameroun. Et ces nouveaux marchés sont d'autant plus importants que la demande de la Chine est vachement en baisse. Leur économie tourne au ralenti. Et les Chinois qui, à une époque assez récemment, avaient acheté des vignobles, notamment dans le Bordelais, commencent à les lâcher. Ils ne sont plus rentables. Et lorsque Rosa a quitté Lagos pour Bordeaux il y a une dizaine d'années, avant la baisse d'intérêt chinois, déjà, elle encourageait ses amis viticulteurs de voir plus loin.
I said, would you people stop focusing on China? And I said, would you people stop focusing on only the US?
Voilà, donc je leur disais, arrêtez de vous concentrer sur la Chine, de faire une fixation sur les États-Unis, tout votre marketing va vers ces endroits. Et avec les taxes de Donald Trump, chaque vignoble sera impacté, dit-elle. Donc elle les a encouragés d'aller vers les nouveaux marchés du Brésil, de l'Inde et le continent africain.
Alors, on peut essayer d'exporter davantage de vin et donc de l'alcool aux pays africains. Le problème, c'est qu'il y a des pays musulmans qui sont nombreux sur le continent.
Oui, bien sûr, et ils pouvaient ne pas du tout répondre à l'appel. En effet, les marchés que j'ai cités, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, ne sont pas majoritairement musulmans. On a une population musulmane d'environ 40, 20 et 50% respectivement. Les pays du Sahel sont bien sûr beaucoup moins ciblés, voire pas du tout, d'autant plus que les relations entre ces pays et la France sont très tendues. Mais l'arrivée des vins sans alcool pourrait changer un peu la donne. La France développe beaucoup ce secteur.
Alison Heur de la rédaction en anglais de RFI. De présumés cambrioleurs arrêtés, tabassés devant des caméras avant que les images soient partagées sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est à la mode en Guinée depuis quelques semaines. Cela inquiète les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent cette forme de vindicte populaire, appellent l'État à réagir. Ibrahima Tibimba, cette information a retenu votre attention au sein de la rédaction de RFI en full day cette semaine. Il suffit de défiler, de regarder les réseaux sociaux guinéens pour constater ce qui est véritablement un phénomène.
Oui, exactement. Et ces images de ces présumés violeurs donc inondent les réseaux sociaux. On y voit généralement des jeunes déshabillés, sévèrement attachés, la bouche soit bien bâillonnée ou remplie d'épiments, subissant de violentes tortures, certains soupirant d'ailleurs en demandant de l'aide. Ce sont des scènes vraiment insupportables. La plupart d'entre eux sont accusés par leurs bourreaux plutôt des délits mineurs, vol des poulets, de téléphones portables, des habits ou encore des chaussures et parfois des motos. Le partage de ces images sur les réseaux sociaux a débuté au cours du mois de Ramadan dernier, donc au mois de mars. En Guinée, si ce mois est synonyme d'actes de piété, des rassemblements dans les mosquées pour des prières, il est aussi connu pour être une période propice pour la valeur, pour profiter de l'absence des musulmans de leur maison, pour venir les cambrioler. Et la popularité des premières images publiées principalement sur Facebook a été à l'origine de la chasse à ces voleurs présumés lancés sur les réseaux sociaux. Leur image devient rapidement virale, des pratiques répréhensibles par les textes des lois, indique Mamadou Kalidjalo, qui est défenseur des droits humains. Il assure qu'aucune personne n'a le droit de se faire justice. Ces propos ont été recueillis par Mamadou Dionga Siba, c'est lui qui est notre correspondant à Conakry.
Alors que dit Mamadou Kali Diallo Timiba?
Ce défenseur des droits de l'homme commence par expliquer que le vol, comme toute autre forme de délit et de crime, est puni par la loi. Mais cette punition est encadrée par un cadre légal, donc la justice populaire est interdite, indique-t-il, avant de préciser qu'une personne peut se trouver au mauvais moment et au mauvais endroit, donc des innocents peuvent être victimes de ces pratiques inhumaines et dégradantes. Mamadou Kali Diallo termine en précisant que même les pires criminels ont des droits qu'il faut respecter. Alors ces images ne devaient en aucun moment se retrouver sur ces réseaux sociaux, conclut-il.
Alors pourquoi ces gens veulent-ils se faire justice ainsi ?
Plusieurs raisons pourraient l'expliquer. Il faudrait juste préciser que la justice populaire n'est pas une nouveauté en Guinée. C'est juste la forme qui a changé cette fois. D'habitude, la population se faisait justice en lynchant à mort des présumés voleurs ou en les brûlant. Cela s'est produit à plusieurs reprises à travers le pays. Les raisons invoquées par des chercheurs et des sociologues se résument à la crise de confiance qui s'est instaurée entre les citoyens et l'appareil judiciaire. Ce sentiment d'injustice a gagné la majorité de la population, indique Ibrahima Aminata Diallo, acteur de la société civile dont l'organisation a enquêté sur cette pratique. Essayons de l'écouter.
Donc, quel est son avis, son expertise?
Il explique en fait que la plupart des citoyens qu'ils ont rencontrés ont expliqué quand ils envoient des présumés voleurs auprès des responsables judiciaires, ils les retrouvent quelques temps après libres sans aucune explication, témoigne donc Ibrahima Aminata Diallo, qui déplore cette crise de confiance entre les citoyens et la justice. Certains présumés voleurs sont relaxés sans jugement, par exemple, et rappellent cependant que cela n'est pas une raison pour brûler ou filmer, exposer les images des présumés voleurs sur les réseaux sociaux. Il conclut en appelant les autorités à agir contre cette pratique, tout en prônant surtout la culture du civisme.
Tim Bimba de la rédaction Full Full Day de RFI. En Roumanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle de début mai est animée par 11 candidats. Il y avait eu l'annulation du scrutin à la fin de l'année dernière pour cause d'interférences étrangères russes pour soutenir le candidat arrivé en tête au premier tour. Vassili Damian en a beaucoup parlé. Tout d'abord, revenons sur ce candidat, donc arrivé en tête du premier tour des élections au mois de décembre.
Călin Georgescu, candidat populiste d'extrême droite, arrivé donc en tête après le premier tour de l'année dernière, a été cette fois-ci définitivement exclu de la course à la présidence roumaine, sur la base des mêmes accusations qui ont motivé l'annulation du scrutin du mois de décembre, à savoir des supposées ingérences russes dans une campagne massive sur TikTok, réseau social très prisé des Roumains. Après Călin Georgescu, c'est une deuxième personnalité d'extrême droite, en la personne de Diana Șoșoacă, qui a été écartée de la présidentielle du mois de mai, au motif qu'elle aurait fait des déclarations contraire aux valeurs démocratiques. Cette même candidate avait déjà été exclue du scrutin de l'année dernière pour les mêmes raisons invoquées par la Cour constitutionnelle. Mais le vivier de leaders d'extrême droite étant apparemment très riche en Roumanie, un troisième représentant de cette branche politique a lui été autorisé à concourir à la présidentielle du mois prochain. Ce candidat, son nom est George Simion, président du parti AUR, Alliance pour l'Unité des Roumains, caracole en tête des sondages, la seule inconnue étant, pour l'instant, qui il aura en face au deuxième tour.
Et c'est là, Vassili, que les choses se compliquent.
En effet, Philippe, la campagne prend un tour de plus en plus dur avec des tensions et des accusations de part et d'autre. Il faut savoir que sur les 11 candidats, 9 hommes et 2 femmes, 2 ou 3 seulement sont des potentiels prétendants à aller en finale avec George Simion, le candidat de l'extrême droite donné, comme je le disais, en tête par tous les sondages. Dans ce contexte, le premier coup de tonnerre est venu il y a 3 jours lorsque Elena Lasconi, candidate et présidente du parti centriste pro-européen, USR, Union Sauver la Roumanie, finaliste du scrutin annulé l'année dernière, a perdu le soutien de son propre parti. Les instances de celui-ci, en se basant sur des sondages qui donnent Lasconi à seulement 4 ou 5% d'intention de vote, ont décidé de ne plus soutenir leur présidente et d'aller vers un candidat indépendant, Nicu Jordan, l'actuel maire de Bucarest, crédité, lui, avec environ 17% des intentions de vote.
Alors, furieuse de cette manœuvre qui la prive également des fonds pour sa campagne, Lasconi déclare qu'elle ne renoncera pas à la course à la présidentielle.
Oui, d'ailleurs, son nom a déjà été imprimé sur les bulletins de vote. En plus, Lasconi a demandé à ses collègues de parti combien ils ont été payés pour changer de fusil d'épaule. Cette remarque n'a bien sûr pas été du tout appréciée par Dominique Fritz. Écoutons le maire de Timișoara et leader du putsch contre la présidente de son parti, interviewé par notre collègue de Bucarest, Cosmin Rușcior.
Que dit-il?
Dominique Fritz trouve que l'attitude d'Elena Lasconi à vouloir se présenter comme la seule patriote, tous les autres faisant partie d'un système qui lui veut du mal, n'est pas saine. À partir du moment, cette autosuggestion, moi je suis convaincu d'avoir une chance et c'est pour ça que j'y vais, devient ridicule.
Autre coup de tonnerre, Vassili.
Eh bien, stupéfaction, mercredi dernier, avant quand Victor Ponta, ancien premier ministre social-démocrate de Roumanie, actuellement candidat souverainiste indépendant à la présidentielle, a raconté lui-même dans une interview comment, en 2014, quand il était donc au pouvoir, lors des grandes inondations, il a donné l'ordre de lâcher les eaux du barrage des Portes de Fer sur le Danube pour éviter que Belgrade, la capitale de la Serbie, soit inondée. Avec cette manœuvre, le lâcher d'eau du plus grand barrage du Danube, la capitale serbe a été épargnée, mais des villages roumains en aval du barrage ont été inondés, mais les gens ont été indemnisés, dit l'ancien Premier ministre. Grâce à ce geste, Victor Ponta a reçu à l'époque la nationalité serbe, à laquelle il est toutefois maintenant en train de renoncer.
Ces aveux ont bien sûr été commentés, critiqués par presque tout le monde roumanien.
En effet, il a été traité de traître, on lui a suggéré de candidater plutôt en Serbie qu'en Roumanie, etc. Son ancien collègue collègue du parti, l'actuel Premier ministre Marcel Ciolacu, était à l'époque le conseiller de Ponta. Aujourd'hui, il lui demande de se retirer de la course.
Vassile Damian de la rédaction roumaine de Radio France Internationale qui surveillera, bien évidemment, comme toutes les rédactions de RFI, ce scrutin le mois prochain. C'était Accent du Monde à retrouver sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale.